radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Ici, soutient la musique locale.
Vous écoutez Quand je creuse par le groupe Volcaillou.
On joue un jeu, quand je je te retrouve.
Volcaillou, un duo formé par Simon et Timothée. Originaires du Sud Ardèche, ils se rencontrent à l'âge de 12 ans au conservatoire et commencent à écrire et composer pendant leurs années lycée.
C'est comme ça, accepte que ça vive un peu mieux.
Aujourd'hui, le duo est un ovni, un alliage entre musique électronique et chanson française.
Les partenaires qui finissent par s'engueuler. Il y a de très vieux trésors perçus à dès qu'on les cherche encore. Il y a nos dents de lait dans ce champ de blé. Trouver refuge dans la terre. Quand on n'a plus.
Volcaillou avec Quand je creuse, un coup de cœur ici de Romardèche.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Brézizel.
Comme ils sont susceptibles d'entendre ce petit cours, je vais faire attention, je vais être sympa avec nos chers petits anges aujourd'hui.
Le petit cours de breton.
Pote Péplard. Garçon ou fille, c'est la question que tous les futurs parents entendent évidemment dans tous les pays du monde. Quand on attend un heureux événement, l'entourage demande souvent « Anéhé, alors, pote Péplard, hein ?» Garçon ou fille, ça permet de choisir, de bien choisir le cadeau de naissance évidemment. Pote, c'est un gars, ur pote. En breton, ça fonctionne à tout âge. Ur pote, un gars ou un garçon. Et plard, ur plard, c'est une fille ou une femme d'ailleurs. Pote, péplard, gars ou fille. Mais on peut préciser, si on veut être sûr, pour les jeunes enfants, ur potric, un petit gars, un jeune garçon, potredigou au pluriel, un peu plus dur à retenir. Hein. Potredigou. Et plaric, c'est pour une jeune fille, une petite fille, plarigou. Au pluriel. Voilà, c'est simple, mais comme toujours, c'est simple quand on connaît. C'est sûr, c'est plus facile après. Donc, pour les gars, pote, potric, potredigou. Pour les filles, plard, plaric, plarigou, au pluriel.
Nom d'un petit breton.
Et maintenant, un nom de bateau. Ça change et on en voit souvent dans les ports avec le mot avel, en mot composé. Avel, c'est le vent. Bon, c'est sûr que du vent, ça aide quand on est en mer. Donc les marins choisissent souvent des noms en rapport avec le vent. Avelvour, par exemple, du vent de mer, Avelvour. Mais on entend aussi, on peut lire Aveldro, le tourbillon. Ça, c'est le vent qui tourne, Aveldro. Autre possibilité, toujours, Avelpen ou Avelaben. Expression moins appréciée, car ça indique où ça parle du vent de tête, Avelaben, le vent de face qui n'aide pas beaucoup en mer. Et sinon, Aveldré ou Aveladré, ben là c'est pour ceux qui veulent du vent arrière. Mais voilà, ce sont de très beaux noms qu'il faut préserver évidemment, comme les noms-lieux, comme les noms de famille, comme notre belle langue en fait. Mais ça se fera que si l'on fait tous un petit effort. Je vous laisse et je vous dis à demain, même heure, d'Ahenta et bon vent.
Le petit cours de breton, à podcaster sur ici.fr et sur l'application Ici.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Cotentin.
Taureau, je crois que c'est du 21. Ah non, je sais plus.
Savez-vous ce que c'est que l'astrologie ?
C'est les astronautes qui vont dans l'espace.
C'est l'espace et les constellations, le placement des étoiles.
Vous êtes de quel signe ?
Verseau. Moi, je crois que je suis taureau.
Moi, je suis taureau.
Moi aussi, je suis taureau.
Comment on a découvert que vous étiez de ce signe-là ? C'est grâce à quoi ?
Au mois de l'année, par exemple, le taureau, je crois que c'est du 21 mars jusqu'au 20... Ah non, je sais plus.
Moi, j'avais un petit carnet de jeu et il y avait un jeu. Si on réussit le jeu, on savait on était de quel signe.
C'est quand même magique, hein ?
Waouh, c'est fabuleux ! Et pourquoi on fait ça ?
Je suis un peu Verseau. C'est de quel temps à quel temps ? C'est de la fin de janvier au début de février. Et moi, vu que je suis née le 31 janvier, je suis Verseau, du coup. Ça s'appelle des signes astrologiques. Et l'astrologie, du coup, c'est des signes astrologiques.
T'es taureau, ça veut dire que tu rentres, t'as besoin d'une étable?
Non, c'est sur les qualités. C'est quand on est, par exemple, taureau, bah, dans le mois de... où on est taureau, bah, on n'est pas comme d'habitude.
Et vous êtes comment, messieurs les taureaux?
Bah, j'en sais rien.
Il possède certainement des qualités, mais voilà. Lesquelles?
Je sais pas, je pense de l'émotion. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Après, je sais pas.
Comment je peux te montrer que je peux être fort et sensible, noble et affectueux?
Les taureaux, eh ben, par exemple, ce sont des personnes qui sont nées pendant les mois de taureau.
C'est logique.
Quand on est taureau, on se contrarie plus, on est plus vexé, alors que d'habitude, non.
Taureau, bah, vu que les taureaux, c'est costaud, bah, je pense que les taureaux, ils sont costauds. Enfin, ceux qui ont les signes astrologiques taureau, ils sont peut-être très forts.
Et les balances, alors?
Quand on était le signe astrologique balance, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, on va le balancer.
Ici, la nuit... on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Poitou.
Et voici Patrick Citeau pour Nom de Nom, aujourd'hui direction Montmorillon, dans la Vienne. Un musée du macaron y raconte l'histoire de cette petite pâtisserie ronde.
Situé boulevard de Strasbourg, ce musée ouvert en 2003 par la maison Ranou-Métivier rend ainsi hommage aux générations d'artisans qui ont bâti la renommée de Montmorillon. Ce musée de l'amande et du macaron vous dévoile ainsi l'histoire et les coulisses de la fabrication de ce célèbre et délicieux biscuit aux amandes. La recette du macaron a priori été rapportée par Catherine de Médicis au XVIe siècle. À partir de cette époque, ce biscuit fait d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf s'est répandu dans de nombreuses villes. On le retrouve ainsi progressivement à Nancy, Amiens ou Saint-Émilion. Il faut remonter au XVIIe siècle pour trouver les premiers macarons sur les étals des marchands de Montmorillon. Le petit biscuit au cœur tendre d'amandes est ensuite devenu la spécialité incontournable de Montmorillon. Aujourd'hui, la maison Ranou-Métivier perpétue cette tradition culinaire. C'est la plus ancienne fabrique de macarons de Montmorillon. Les savoir-faire se transmettent en effet dans cette famille depuis 5 générations. La recette traditionnelle des macarons demeure ainsi inchangée depuis ses débuts.
Et notre musée du macaron, bah en fait, c'est l'occasion de nous plonger au cœur de l'histoire de cette spécialité culinaire fierté de la région.
Une spécialité qui doit tout à l'amandier. L'histoire de cet arbre fruitier à travers les continents et les siècles est ainsi une des thématiques proposées. Les défis environnementaux liés à la production de l'amande sont aussi au programme de la visite. L'histoire et la fabrication du macaron a bien entendu toute sa place au cœur de l'espace d'exposition. Les gestes et les outils du biscuitier font également partie de cette immersion au pays du macaron. Un parcours ludique et gourmand qui fera le bonheur des enfants comme des plus grands. Concernant les origines du nom de la commune de Montmorillon, on peut s'appuyer sur une théorie ancienne. Elle précise que la bourgade, située sur une colline, aurait été investie par des Maures en 732, avant ou juste après la fameuse bataille de Poitiers. D'où la déclinaison en Mont de Morillo ou Colline du Mort. Mais le nom d'un des premiers barons de la ville a tout aussi bien pu inspirer cette dénomination. Hugo Banse se fait ainsi appeler Moro Loco, qui dictour Morillo, ou seigneur de la localité mauresque qui se nomme Morillo. Toujours est-il que de Montmorillo au XIe siècle, puis Montmorlhomme au siècle suivant, la bourgade endosse finalement son nom actuel au XVe siècle.
Et ben voilà, alors ça c'est quand même fou parce qu'on remonte le temps grâce à Patrick Citeau qui nous apprend toujours des détails qu'on ignore souvent d'ailleurs sur le nom de nos rues, de nos communes également. Et évidemment, si jamais vous loupez des épisodes de Nom de Nom, pas de panique, vous pouvez vous abonner au podcast de Nom de Nom en allant sur notre site.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
I said, bye.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts.
On le sait, les histoires de famille sont parfois un peu compliquées. Mais voici quelqu'un qui répare les arbres généalogiques qui ont pris la foudre. Pour une succession, elle peut vous appeler à 14h un mardi pour vous annoncer que vous avez un frère caché qui élève des chèvres dans le Larzac.
Alors, je m'appelle Virginie Nguyen Brion, je suis généalogiste successorale.
Virginie, voilà un métier bien savant. Ça consiste en quoi exactement?
Alors, ce métier consiste à retrouver donc les héritiers dans le cadre de succession. L'objectif, c'est justement la transmission d'un patrimoine. Mais ce qui rend ce métier passionnant, c'est que ça va au-delà, en fait, la transmission du patrimoine. On vient rouvrir une histoire familiale. Ça peut arriver que ça amène à de véritables retrouvailles.
Alors, c'est pas commun comme métier, on y arrive comment?
On arrive à ce métier un peu par hasard. Pour ma part, c'était un peu un coup du destin. À la fin de mes études de droit, me dirigeais plutôt vers le notariat. Et j'ai découvert ce métier et j'ai eu la possibilité d'entrer dans un cabinet historique local. Et j'y ai travaillé pendant 16 ans.
Et ces gens que vous retrouvez, ils espèrent quoi et ils demandent quoi?
Retrouver ces photos, c'est ça qu'on nous demande. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même vraiment une vraie partie généalogie. S'intéresser aux défunts et voir s'il n'y a pas des photos de famille.
Vous devez en avoir des histoires à raconter. Une en particulier?
Pour moi, le cas le plus exceptionnel, c'est toujours ce côté humain. C'est-à-dire quand on vient annoncer à un frère qu'il a une sœur et donc à la sœur qu'elle a un frère. Le papa, désolé, mais c'est souvent le père, n'avait rien dit. C'est-à-dire qu'il avait eu un fils d'une deuxième union. Et il n'avait pas du tout parlé de sa fille d'une première union. Parfois, les frères et sœurs ont des destins complètement différents et ça va être compliqué pour eux de bien s'entendre. Mais là, en l'occurrence, ils étaient tellement heureux de se retrouver et je pense qu'ils se voient toujours aujourd'hui. Et ça a changé leur vie, ça a bouleversé leur vie.
Comment fait-on dans des histoires aussi personnelles pour que ça se passe bien?
Il faut à la fois être méthodique, parce qu'il faut respecter une certaine méthodologie au départ. Ensuite, je pense qu'il faut être empathique, parce que l'empathie, c'est ça qui va faire l'empathie dans les recherches. Parce qu'on va se mettre un peu à chaque fois à la place du défunt, mais pourquoi il serait parti par là, connaître les comportements sociaux de l'époque, etc. Et puis l'empathie, parce que quand on va retrouver les héritiers, en fait, certains ont besoin d'être écoutés, puis il y a certains qui bloquent, mais parce qu'ils ont juste besoin d'être entendus. Alors moi, c'est ici, à Lille, que j'exerce mon métier avec passion de généalogie successorale et que j'ai la chance de pouvoir exercer cette profession qui est toujours pleine de surprises.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici au Cerf.
Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille?
Je veux une petite révolution est en train de se jouer et elle ne pèse pas bien lourd, juste 55 grammes. 55 grammes en moins par bouteille, autant dire même pas le poids du cassis que l'on met dans un kir royal.
Tu bois des kirs, toi?
Bah oui, je bois des kirs avec modération, bien sûr. Mais revenons à notre bouteille. 55 grammes en moins, je disais.
Elle est légère, légère.
Ce régime minceur pourrait bien alléger sérieusement le bilan carbone de toute la filière, racontent nos confrères de Lyon Républicaine. Testé par les caves de Bailly-la-Pierre à Saint-Brie et conçu par Veralia, le géant européen du verre, cette nouvelle bouteille passe de 775 à 720 grammes. Visuellement, rien ne change. À l'œil nu ou en main, on n'y voit que du feu. Mais derrière cet allègement invisible se cache un vrai coup de pouce pour la planète.
Eh bien, c'est une merveilleuse invention.
Merveilleuse invention.
Car aujourd'hui, le gros problème environnemental du vin, c'est la bouteille. Produire du verre, ça chauffe fort, des fours à 1800 degrés et beaucoup d'énergie. Alors forcément, chaque gramme économisé, c'est du CO2 en moins dans l'air. À grande échelle, le calcul est vite fait. 1 million de bouteilles allégées, c'est 18 tonnes de CO2 économisées.
Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact.
Un gros impact, hein, mais il a fallu 2 ans de tests, de modélisation et d'essais en conditions réelles. Eh oui, encore raté. La bouteille devait tenir le choc, supporter la pression, le transport, le vieillissement en cave. Et les gens qui font de la musique avec. Maintenant, la transition va se faire en douceur. Chez Bailly-la-Pierre, cette démarche s'inscrit naturellement dans une philosophie déjà bien ancrée, stocker, produire et avancer pas à pas vers un crément plus éco-responsable.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Pays d'Auvergne.
Nous sommes avec une des dernières et la plus ancienne fabrique de pâtes de fruits en Auvergne. Avec Anthony Valla, qui est le directeur général. Merci de nous recevoir, Anthony. Nous sommes face à une vieille photo qui montre, je pense, le tout début de cette maison Cruzy, c'est ça ?
C'est pas le début historique, hein, puisque la maison Cruzy a été fondée en 1880, mais c'est effectivement une photo du site de fabrication ici, sur la zone du Brézé, telle qu'il était en 1956, au moment où la maison Cruzy a déménagé du centre de Clermont pour venir s'installer sur la zone du Brézé.
Construction de l'usine Goffredi, avenue Jean-Mermoz, sur le champ d'Angélique. Et on aperçoit des angéliques sur ce champ.
Et l'angélique étant un des produits un petit peu signature des confiseurs et de la confiserie. Et donc c'est un beau clin d'œil de l'histoire que de penser que voilà, notre site de fabrication ici est basé sur un ancien champ d'angélique. Voilà.
L'angélique, ces petits bâtonnets de couleur verte, hein, c'est
exactement.
Ça, je ne dis pas de bêtises.
Il y a beaucoup de particuliers qui ont aussi de l'angélique à la maison.
Voilà. C'est la tige.
On confie la tige, tout à fait.
D'accord, oui. Ok. Et aujourd'hui, vous en faites toujours. Vous avez toujours des producteurs d'angélique qui bossent avec vous.
Oui, tout à fait. C'est un agriculteur qui vient nous livrer en tracteur chaque année. Tout à fait. C'est au mois d'août, quand la récolte est prête. On se met d'accord avec lui l'année d'avance sur les quantités dont on aura besoin. Et puis, il vient nous livrer. On la travaille, on la prépare. Et puis après, on va la faire confire. Donc, c'est un produit auquel on tient beaucoup.
Il y a toujours une grosse tradition autour de ça. Enfin, en Auvergne, on offrait des pâtes de fruits, c'était un incontournable.
Effectivement, la création de la pâte de fruits a été faite en Auvergne. Hein. À la base, la pâte de fruits s'appelait la pâte d'Auvergne. Et c'était vraiment une spécialité, on va dire, régionale. Ce qui a fait que l'Auvergne était une terre de fruits confits, c'est que, on va dire que la noblesse venait, descendait de Paris dans le 16e, 17e siècle et venait dans les cures, à Roya ou autre. Ils découvraient, ils dégustaient les fruits d'Auvergne. Et la méthode de conservation à l'époque, hein, puisqu'on n'avait pas toute la pasteurisation, etc., c'était de confire les fruits. Ce qui faisait que, du coup, les confiseurs auvergnats ont prospéré sur la base des gens qui venaient en cure et qui ramenaient leurs fruits à Paris en général. C'est comme ça que la confiserie et le métier de confiseur a démarré en Auvergne.
Vous écoutez ici.
Oui, je sais. La vie est faite pour que toutes les choses se succèdent, comme les huit après le sel. Se suivent et jamais ne reviennent, on changera pas le sablier. Mars après février.
J'en profite pour te dire que je suis la même que quand on s'est rencontrés, même si autour de nous ça a un peu changé. Est-ce que toi aussi les papillons que t'avais dans le ventre se sont envolés ? Est-ce que toi aussi t'avais le trac comme tu pensais ? J'ai une idée, on peut faire. faire semblant qu'on se connaît pas ce soir. Comme ça, qui sait, on pourra peut-être se croiser par hasard.
Mais j'aimerais te rencontrer encore pour la première fois et revenir à l'aurore de nos tout premiers pas. Plus me souvenir de ton corps que je ne connaîtrais pas. Mais j'aimerais.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Mayenne.
Relife PC, c'est une entreprise qui répare les PC grâce au reconditionnement. Areski Machou, le responsable.
On récupère tous les parcs informatiques professionnels qu'on va reconditionner, regarantir 2 ans et redistribuer ça beaucoup aux particuliers ou à d'autres petites structures, avec la spécificité d'être spécialiste Mac sur la région.
Alors il dit, je pense, mais quand on voit l'évolution de la boîte, on peut l'affirmer.
On a commencé à la Chapelle Craonnaise en 2022, sortie de Covid, dans un cabanon. Aujourd'hui, on est sur un local avec 300 mètres carrés d'atelier et de surface de vente. Donc, on recrute aussi régulièrement.
Et oui, parce que le nombre de clients augmente tous les mois sur Laval.
Que ce soit en particulier ou en professionnel. Après, nous, on est plus axé sur du réemploi. Donc, on parle plus souvent de tonnage que de PC. On est à 6,8 tonnes l'année dernière de matériel informatique réemployé sur le département. Donc, c'est plutôt pas mal.
Et pour récupérer du matériel informatique, il s'associe avec différentes entreprises lavalloises et même certaines du Mans.
On met des bacs à disposition, nous, chez eux, donc ils remplissent le bac de matériel informatique qui peut encore resservir, et nous, on fait un enlèvement chez eux, où eux nous le livrent suivant les conventions qu'on signe avec eux. Et du coup, nous, de ce matériel-là, en fait, on est fait un tri chez nous, où on va reconditionner tout ce qui est possible de reconditionner, envoyer dans les bonnes filières tout ce qui ne peut pas l'être, redistribuer ça sur le marché pour une seconde vie.
Et si vous avez un doute concernant la fiabilité de l'ordinateur réparé, je peux vous dire que c'est ultra contrôlé.
Sur un ordinateur portable, on est à peu près à 46 points de contrôle avant de le remettre sur le marché.
Et si on a encore un doute, Areski ne passe pas par 4 chemins.
Moi, c'est ce que je leur dis souvent, j'ai pas forcément envie que vous reveniez tous les 3 semaines m'engueuler. On n'est pas sur des marques tête de gondole. Donc du coup, le matériel est beaucoup plus robuste, beaucoup plus performant et adapté à un usage professionnel. Quand il est remis sur du particulier, il peut faire des années avant d'avoir la moindre panne.
Et côté prix alors ?
C'est forcément moins cher par rapport au prix d'origine de l'ordinateur. Après, c'est vrai qu'on a quand même des ordinateurs qui peuvent monter sur du 550€.
C'est ça, parce que les PC à l'origine valent souvent plus cher qu'un PC neuf dans un magasin électroménager high-tech, par exemple. Bon, sinon, chérie Life PC, vous vendre un ordinateur, c'est comme une adoption avec un animal.
On essaye de faire repartir le bon PC avec le bon client. C'est toujours une question de budget, une question de durabilité. On ne va pas réparer un ordinateur qui ne sera plus à jour dans 1 an et demi.
Areski Machou a encore plein de beaux projets sur le feu avec Relife PC. Il va notamment s'associer avec Maïa, une entreprise d'IA locale et souveraine. Mais ça, c'est une autre histoire.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Besançon.
Ici Besançon.
Le réveil 100% Franche-Comté.
Ici Matin.
Arnaud Fromage, bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Oh, ça fait beaucoup de bonjour, dites-moi. Bon Arnaud, aujourd'hui, quand le général de Gaulle vient en Franche-Comté?
Eh bien, il se passe toujours quelque chose. D'autant qu'il y est venu plusieurs fois dans la région, 3 fois déjà à l'automne 1944 pour préparer la libération de Belfort, lors d'une réunion secrète avec le général de Lattre de Tassigny et Churchill au château de Montalembert, à Mèche, après la libération. Ensuite, quand de Gaulle est venu saluer les villes libérées, Besançon, Morteau, Grandcombe, Châtelet, mais ce n'est pas la dernière fois que de Gaulle va venir dans la région. En 1959, sur la route qui le mène en Alsace, il en profite pour aller faire quelques petites pauses dans le territoire de Belfort. À chaque fois, le grand homme descend de sa déesse noire et passe quelques minutes à discuter avec les habitants, stupéfaits de voir le général en vrai dans leur commune. À Rope, Saint-Germain, Felon, La Chapelle sous Rougemont, La Rivière, Fontaine, Foussemagne et à Angeau. Angeau, 206 habitants, où de Gaulle est accueilli par la foule dans l'unique rue ornée de drapeaux et de bandeaux bleu, blanc, rouge. Anecdote amusante, le village d'ailleurs, qui ne possédait pas autant de décorations, est allé les piquer chez les voisins de Dell.
Ah, bon, mais Arnaud, la grande tournée de Gaulle en Franche-Comté, c'était en 1962.
Oui, la tournée des Grands-Ducs même. Le 14 juin, il atterrit à la base aérienne militaire de Luxeuil avant de se rendre à Vesoul, puis de filer vers Dole à bord cette fois d'une Simca présidentielle. Ensuite, direction Arbois, puis Poligny, Lons-le-Saunier où à chaque fois, il est accueilli en héros. Le lendemain, il continue sa tournée par le Haut-Jura, Saint-Claude, Morée, Morbier, Saint-Laurent, Grand-Vaux, Cise, un petit quart d'heure à Champagnole, et ensuite direction Équevillon, Onglières, Plénise et Sanzeau, avant de remonter dans le Doubs, un discours à Pontarlier, à Besançon. Bref, le marathon présidentiel se termine le 17 juin dans le territoire de Belfort.
Et ben dis donc, et pendant toute la durée de ce périple, il a eu un problème majeur.
Oui, pendant ces 4 jours en Franche-Comté, le général de Gaulle ne s'est pas contenté de prononcer des discours et de serrer des louches. Non, il a bien fallu qu'il dorme aussi. Or, Charles de Gaulle est grand, très grand même, 1m96 au garrot, donc les préfectures vont galérer à chacune de ces étapes pour lui trouver un paddock à ses dimensions. D'ailleurs, l'Élysée a fait réaliser en avance des lits sur mesure. Alors, pour la première nuit de sa visite à Vesoul, l'on apporte donc à la préfecture le lit spécial du général. Sauf que l'année 1962 est très tendue. C'est la fin de la guerre d'Algérie, une partie des accords d'Évian est d'ailleurs négociée en secret au Fort des Rousses pendant ce voyage présidentiel. De Gaulle a échappé de peu à l'attentat du Petit Clamart, alors son service de sécurité est sur les dents. Ainsi, il lui déconseille de dormir à Vesoul même et préfère l'envoyer à la base aérienne de Saint-Sauveur, jugée plus sûre. Mais si les hommes et les véhicules ont pu faire le transfert, le lit, lui, eh bien, il est resté à Vesoul, dans les appartements du préfet. Et il y est toujours, d'ailleurs, parce que l'Élysée ne l'a jamais réclamé. Alors, l'histoire ne dit pas si De Gaulle a bien dormi ce soir-là, mais en tout cas, c'était pas dans un lit à sa taille.
Non, c'est certain, ça. Merci beaucoup, Arnaud Fromage, et puis à demain.
À demain.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
Parle-moi des simples choses, emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers, du cinéma, des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Et d'un violon sur le toit. Donne-moi des ailes et du chocolat. Parle-moi du bleu du ciel dans un restaurant chinois. Offre-moi du miel du bout de tes doigts. Ta bouche et tes bras, entre dans la danse et danse avec moi. Parle-moi de ces distances qui ne nous séparent pas. Dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. Parle-moi des simples choses, emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers, du cinéma, et dis-moi que l'amour ne s'arrête pas.
Ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Belfort Montbéliard.
Des circuits courts, je privilégie ça. Je me dis qu'on de la richesse, il y en a partout, mais il y en a chez nous aussi.
Ici Belfort-Montbéliard, les Comtois qui comptent.
Il travaille le chêne ou le frêne pour redonner vie, notamment au jeu des staminets dans son atelier. Il s'appelle Damien, et avant de parler de vos créations, de l'amour du bois, d'ailleurs cet amour, il est rentré comment dans votre vie ?
Difficile à dire comment c'est rentré dans ma vie, en tout cas je suis quelqu'un curieux de nature. Et le travail du bois, je trouve que ça c'est noble en fait, c'est une activité assez noble. Et puis il y a l'amour du jeu aussi là-dedans. Et finalement, en étant curieux, en s'intéressant aux choses, j'ai vu ces jeux en bois, hein, ces jeux d'estaminets qui existent depuis très très longtemps. Et puis, ben, j'ai eu envie de les faire moi-même. Donc, il y a l'envie de créer, et une fois que c'est créé, il y a aussi l'envie de partager.
Bon, il faut le dire, entre l'envie, la réalisation, il y a quand même un pas, Damien. Il faut être sacrément bricoleur pour transformer une pièce brute en un jeu fonctionnel, non ?
Clairement, oui. Curieux déjà, oui, bricoleur beaucoup, mais j'aime toucher à tout. Ça fait longtemps que je bricole un peu tout et n'importe quoi. Et puis, on voit un jeu, on le teste, on l'essaye, ça nous plaît. Donc, voilà, la curiosité, ça anime cette flamme de la curiosité. Et du coup, bah, je cherche à comprendre comment il a été conçu. Et je me penche sur la question, et puis de fil en aiguille, bah, on fait des essais. Ça marche pas forcément du premier coup, hein. Ça, c'est normal, c'est le jeu aussi. Et puis, bah, au bout du compte, on arrive à créer quelque chose, on teste ce jeu. Finalement, il marche, ça donne envie d'en créer d'autres, de s'intéresser à ce qui a été créé, ce qui existe déjà. Et puis, par là aussi, on a des idées sur des choses qui n'existaient pas. Alors, on a envie d'apporter sa petite touche, sa petite patte personnelle. Et puis, bah, de fil en aiguille, on produit, on continue. Et puis, je pense qu'il y a une certaine addiction là-dedans. Mais c'est une bonne addiction, en fait.
Vous travaillez surtout en circuit court avec du bois local, des produits naturels. Est-ce que c'est essentiel pour vous que le jeu reste un objet sain ?
La démarche, elle est complètement... on est vraiment là-dedans. Enfin, je suis là-dedans parce que je suis seul dans cette aventure. Mais le bois, oui, est local aussi bien sur les éléments de jeu que je vais créer aussi. Enfin, les plateaux de jeu, on va dire. Mais aussi les éléments, voilà, comme je disais tout à l'heure, que je vais faire autour à bois. Mais des circuits courts, je privilégie ça. Je me dis qu'on de la richesse, il y en a partout, mais il y en a chez nous aussi. Donc, ça serait dommage d'aller chercher trop loin ce qui existe déjà chez nous. Donc, oui, je reste local. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi une volonté de rester sur quelque chose de naturel. Le bois est un élément naturel. En transformant le bois, en le travaillant, on peut faire des choses magnifiques. Moi, je crois beaucoup en ça, mais je crois aussi en tout ce qui va sublimer le bois. Ce que je vais utiliser pour teindre le bois, pour cirer le bois, pour le huiler. Je vais vraiment rester sur des produits naturels parce que pour moi, ça fait sens.
Damien Lefèvre, créateur de jeux en bois, a retrouvé sur les réseaux sous le nom Il était un petit atelier. Et vous retrouvez tous nos comptoirs qui comptent sur notre application ici et le site internet ici.fr.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Garlozère.
Alors, j'ai testé pour vous un week-end dans les Cévennes. Nous allons dormir dans une yourte. Une escapade insolite et ressourçante, et tout ça à moins de 2h de Nîmes. Direction Sumène, au cœur des Cévennes. À notre arrivée, nous avons été accueillis par Emmanuel. C'est la propriétaire d'Escale en Cévennes. L'ambiance est paisible. On entend à peine le chant des oiseaux. Et la surprise, elle a été totale pour les enfants. Dès l'entrée, j'ai été surprise par le confort de cette yourte. On y trouve tout le nécessaire et même la connexion 4G. Ceci est un détail qui fait la différence pour deux ados. Le plus génial pour moi, c'est la vue panoramique sur la nature et les montagnes. Après un bon dodo, le matin, nous avons pris un petit déjeuner sur cette terrasse où on a eu droit à des confitures maison. C'était un vrai régal. Cette parenthèse a été une vraie bouffée d'oxygène. Le calme et la beauté du lieu nous ont ressourcés. C'est l'évasion parfaite pour se sentir loin de tout tout en étant si proche de la maison. Pour découvrir cet endroit unique, rendez-vous chez Escale avec un S, en Cévennes, à Sumène. Vous pouvez consulter son site web escaleencevennes.com et pensez à vérifier les disponibilités car c'est une adresse très très prisée. J'ai testé, j'ai adoré, c'était Delphine. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle découverte locale.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
Kizef, petit guide à l'usage des étrangers du sud du péage d'Arras en vacances dans notre belle région.
Dimanche matin, levé avant le soleil, vers 9h, vous descendez prendre un café que vous pensez amplement mérité. 8 heures de sommeil, franchement, on mérite une pause café. Et devant la cafetière, votre cousin regarde attentivement le café coulé. Ça s'appelle une sentinelle de cafetière. Et là, il se retourne et dit « Bon, t'es déjà debout ? Il fait corps noir, t'as qu'à t'allier ou quoi ?» Ne paniquez pas, Wikizef est là pour vous aider. Taquet d'un lit. C'est une réflexion semi-désagréable, parce qu'il y a plusieurs niveaux de réflexion désagréable. Ça dépend de l'heure qu'il est, du temps qu'il fait. Admettons, il fait 27 degrés à l'ombre, et ben c'est l'heure de fais pas chier. Ou alors, il y a 3 grammes à quart. Et ben c'est pas la peine de se demander pourquoi il est désagréable d'un seul coup, c'est parce qu'il n'y a plus de canette.
Exemple.
Vous avez la réflexion désagréable qui serait « T'es déjà debout ? Ah, retourne te coucher, c'est pas le jour à me faire quiller du côté de la cafetière. Hein. » La réflexion pas désagréable, t'es déjà debout. Oh bah alors, j'ai fait du café pour un régiment de soldats, t'inquiète, assis-toi, je te ramène un jatte. Réflexion semi-désagréable, bah t'inquiète, t'as un lit ou quoi ? Petite phrase qui présuppose que pour que vous parvinciez à vous lever tôt, il faille forcément que vous fûtes tombé du lit. Vu que vous n'êtes pas totalement du Nord et que forcément tout ce qui est au sud du péage d'Arras possède un degré de fainéantise qui augmente au fur et à mesure qu'on s'approche de la Côte d'Azur. Ou là-bas, pour se lever tôt, bah faut pas qu'ils quittent leur lit, hein, mais qu'ils descendent en rappel. Allez, au revoir hein, et à une baisse à marraine.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici au Serre.
Itinéraire bis, Catherine Marchesin.
Itinéraire bis à Sainte-Vertu cette semaine. Et là, je suis en mairie de Sainte-Vertu. Christophe Chesson, bonjour.
Bonjour.
Comment vous définissez-vous, Christophe ?
Écoutez, j'ai 63 ans et je cherche encore à comprendre qui je suis et ce que je fais dans la vie. J'ai travaillé dans le cinéma pendant des années, je suis photographe depuis 20 ans. Il y a eu un moment où j'ai choisi de changer de vie. Sainte-Vertu m'a appelé et je suis arrivé ici suite à un coup de foudre avec ma maison. Et puis ensuite, la mairie m'a appelé et je me suis retrouvé maire accidentellement. J'ai monté une petite auto-entreprise qui fabrique des meubles et en acier, en ferraille. J'essaye de faire du sur-mesure. Et puis voilà, j'essaye d'être un citoyen digne de ce nom, avec une vie de consommation un petit peu mieux maîtrisée, et puis une application vis-à-vis de la collectivité par mon poste de maire. Mais je pense que j'essaie de m'appliquer avant, et je continuerai à m'impliquer après, à la fin de ce mandat, si ça se confirme comme ça.
La passion pour l'image, vous avez travaillé dans le cinéma, vous êtes photographe, c'est terminé ?
Ah non, ça c'est quelque chose qui vous tient à vie. La fabrication d'une image, qui en fait consiste à raconter une histoire dans une fenêtre, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que si on veut juger de la santé d'une société, on regarde sa fiction. Si sa fiction est imaginative, riche, la société va bien.
On peut rappeler quand même les films pour lesquels vous avez travaillé ?
Alors, j'ai été extrêmement gâté. J'ai travaillé avec Jean-Jacques Hano, j'ai travaillé avec Sofia Coppola, dont j'ai travaillé sur Marie-Antoinette, j'ai travaillé avec Claude Lelouch, j'ai travaillé avec Andrzej Zulawski, j'ai fait 55 films. Donc, oui, j'en ai fait quelques-uns.
Mais pourquoi un jour on s'arrête alors, Christophe ?
Bah, d'abord parce qu'on devient un peu plus vieux, peut-être un peu plus sage, que les métiers de cinéma sont des métiers qui sont absolument épuisant en termes d'investissement physique. Moi, j'ai toujours été mu par l'envie d'apprendre et que peut-être j'étais arrivé à un stade où j'avais le sentiment de ne plus apprendre suffisamment pour me satisfaire. Et puis, place aux jeunes.
Aujourd'hui, à Sainte-Vertu, cette rencontre avec cette toute petite commune, elle s'est faite de quelle façon ?
J'avais un besoin viscéral de m'enraciner quelque part. Alors après, Sainte-Vertu, bah, le nom lui-même est assez attractif. Et puis après, j'ai eu un coup de foudre pour les maisons que j'habite ici.
Itinéraire bis. Catherine Marchesin.
Itinéraire bis à Sainte-Vertu cette semaine. Et aujourd'hui, eh bien, je suis au 2. Le 2, Cécile Barbara, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi le 2 ?
Le 2, c'est un lieu qui est dédié à l'art. C'est une magnifique maison que j'ai rachetée à une artiste peintre, Joëlle Kamnica, qui a vécu pendant plus de 25 ans. Et quand j'ai racheté la maison il y a 5 ans, je me suis dit, je le dédie à l'art, je continue les expositions de peinture de Joëlle, j'y organise des concerts de musique classique, 2 concerts par an, et mon métier, c'est la mosaïque murale. Donc c'est un lieu qui est dédié à l'art autour de la peinture, de la musique et de la mosaïque.
Comment on tombe dans la mosaïque, Cécile Barbara ?
Ah, alors moi j'avais un autre métier auparavant, j'étais pas du tout destinée à ça, c'était d'abord un loisir créatif, un dimanche, j'ai trouvé un petit kit au BHV, j'ai fait un cadre photo, et ça est devenu une passion, donc j'en ai fait de plus en plus, et puis suite à un licenciement économique, je me suis interrogée, puis je me suis formée auprès d'un professionnel, et après j'en ai fait mon métier, voilà.
Des exemples de mosaïques que vous avez faites ?
Oui, j'ai quelques belles réalisations dont je suis assez fière. J'ai fait une terrasse de 60 mètres carrés rue de Rivoli à Paris pour un restaurant L'Impérial, donc qui est en, sous les arcades de la rue de Rivoli, en face du jardin des Tuileries. J'ai fait une, aussi un sol pour une boutique de vêtements pour enfants, tartines et chocolat, également à Paris, boulevard Saint-Germain. Et puis également deux façades de boutiques d'un chocolatier au Mans et à Tours. Voilà, donc j'ai à la fois des grands projets, des grandes réalisations, puis des projets un peu plus petits, et j'aime bien alterner entre des grands et des plus petits projets. Et là, je viens juste de terminer un hall d'immeuble pour un immeuble en construction à Paris, dans le 20e arrondissement, un hall de 15 mètres carrés, voilà.
Vous travaillez également, j'imagine, pour des particuliers.
Oui, 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 je fais souvent des crédences de cuisine, et puis des salles de bain. Et j'aime bien à la fois avoir des grands projets et puis des plus petits projets. Et c'est à chaque fois une relation aussi avec les clients, de trouver quelque chose qui va leur plaire, qui me plaise aussi. Et chaque projet est un moment de rencontre.
Et votre passion pour la mosaïque, Cécile Barbara, vous la faites partager?
Oui, j'organise souvent pendant les vacances scolaires des petits ateliers découvertes que j'ouvre aux adultes et aux enfants pour en fait transmettre le plaisir que j'ai eu la première fois que j'ai fait de la mosaïque avec un petit cadre photo où j'ai collé un carreau noir, un carreau blanc à côté. C'est vraiment tellement super. Et une fois, j'avais la grand-mère, la maman et la petite fille qui chacune avait leur sous-verre. Et c'était vraiment, et c'est des très bons moments, très, très conviviaux et vraiment de partage.
Catherine Marchezin, Itinéraire BIS.
Itinéraire BIS à Sainte-Vertu cette semaine, la pause gourmande que vous attendez chaque semaine. Eh bien, aujourd'hui, je suis à l'auberge du Moulin. Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Sylvie, vous êtes à l'auberge du Moulin depuis combien de temps?
Alors, ça fera un an le 15 novembre.
Vous avez pris la suite de quelqu'un très connu, c'était Louisette. C'était qui, Louisette? Je vous ai parlé de Louisette parce que j'ai vu sa photo dans la salle.
Alors oui, c'est une grande dame à qui appartenait le Moulin et qui cuisinait beaucoup avec son cœur. Et c'est une personne qui a fait de cet endroit une belle histoire. C'était convivial et surtout très familial.
Il a fallu prendre la suite, redonner une vie à ce lieu qu'est l'auberge du Moulin ici à Sainte-Vertu. Qu'est-ce qu'on peut manger ici, Sylvie?
Alors, on peut manger du bourguignon, des plats en sauce, de la blanquette de veau, on peut manger de la tête de veau, du riz de veau, bien sûr, hein. Tous les plats traditionnels français, des œufs en meurette, voilà. Mais on fait aussi des plats indiens, donc du butter chicken, du biryani, des poulets au korma, de l'agneau korma, donc voilà. Et justement, on prépare une belle soirée samedi, la fête des Lumières.
C'est quoi la fête des Lumières?
Alors, en Inde, la fête des Lumières, c'est une fête hindouiste qui est le Diwali. Et Diwali, c'est une fête où tout le monde, c'est très pareil, c'est très convivial, c'est très amical. On se partage les sucreries, les pâtisseries, on se partage les repas, c'est voilà. C'est plein de lumière, plein de fleurs, plein de couleurs surtout, voilà.
Une très belle salle et un très beau lieu, hein, que cette auberge du Moulin.
Ah mais tout à fait, avec le Serein qui est juste à côté, ce paysage qui est merveilleux, on a aussi ce joli cachalot qui est à côté, qui attire pas mal de curiosité aussi. Et puis, il faut savoir que les gens du village aussi, c'est des gens qui ont beaucoup de cœur, qui sont très gentils, très, très accueillants, qui mettent la main à la pâte s'il y en a besoin, voilà.
C'est la question que j'allais vous poser, Sylvie. Est-ce que vous avez été bien accueillie ici, dans ce petit village de Sainte-Vertu?
Alors, pour ma part, oui, très très bien accueillie. Et j'ai même eu l'impression d'avoir une famille. Donc voilà, c'est des gens très touchants, avec qui il y a de l'humour, il y a, je dirais même, une pointe d'amour. Donc voilà.
Ici Auxerre, Itinéraire BIS.
Itinéraire BIS à Sainte-Vertu cette semaine, et aujourd'hui, eh bien, je vous propose une rencontre avec Joël Dolé. Joël Dolé, bonjour.
Bonjour.
Joël, vous êtes photographe professionnel, vous êtes installé ici à Sainte-Vertu. La photographie, elle est rentrée de quelle façon dans votre vie? Racontez-moi.
Elle est là depuis longtemps, très longtemps. La photo, c'est ma mémoire, c'est ma manière de partager ce qui me touche. Et j'ai toujours eu, même depuis très 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 longtemps, j'ai toujours toujours, j'avais toujours un icône avec moi partout où j'allais. Et en argentique, j'ai fait énormément de choses en me déplaçant. J'ai toujours eu mon studio photo et j'ai eu envie de travailler sur des sujets de société, des sujets d'actualité qui me tenaient à cœur. Et je fais beaucoup de portraits. J'ai fait une série qui s'appelle Des légumes et des hommes, qui est actuellement exposée d'ailleurs à Guergy. Dans cette série, il y a des personnes extrêmement connues, comme Michel Onfray, Alain Passard, Alain Baraton, et des gens absolument pas connus, comme tout le monde, comme moi, comme n'importe qui autour de moi, et des jeunes, des vieux, et des légumes pareils, des anciens, des connus, des pas connus, des courants, tout ça. Et tout le monde est remis sur le même plan. Et c'est ça qui m'intéresse.
Et aujourd'hui, vous êtes totalement abandonné Paris pour Sainte-Vertu.
Oui. J'ai mis 2 ans avant de faire le pas, j'ai mis du temps. Depuis 2015, je faisais mes semaines moitié Paris, moitié Sainte-Vertu. Et j'ai pris la décision un jour de lâcher Paris complètement parce que je suis autonome. J'ai un studio, je suis totalement indépendante et autonome. Je continue à venir, à aller à Paris de temps en temps. J'ai de temps en temps des commandes sur Paris. Évidemment, j'ai plus le rythme que j'avais avant quand j'étais à Paris. Après, la roue, elle tourne forcément. Moi, j'ai eu ma période, j'ai beaucoup bossé. Les jeunes, ils sont là aussi, ils continuent, donc voilà. Mais, et moi, je travaille, je me concentre sur mes expos, sur mon travail, je continue, je fais des nouvelles séries ici dans la région. Ici, il y a beaucoup de proximité, j'adore ça, et donc, je suis très contente d'avoir quitté Paris, et j'ai eu la chance de quitter avant le Covid, genre tout début 2020, donc voilà.
Et puis Sainte-Vertu, j'ai envie de dire, c'est un cocon artistique.
Oui, alors bien sûr, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pu quitter Paris. C'est le fait qu'on soit une petite bande ici à Sainte-Vertu. On est plusieurs artistes, on se connaît, on s'est connus à Paris pour certains. On s'est rencontrés, d'autres sont venus et ça s'est élargi dans Sainte-Vertu. Mais c'est vraiment, et on est solidaires en effet des événements pour les uns et les autres.
Ici Auxerre, Catherine Marchesin, Itinéraire BIS.
Itinéraire BIS à Sainte-Vertu cette semaine. Je me suis arrêtée à l'atelier Cœur de Lys. Maria Pérez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tapissière. Ici, c'est le domaine de la tapissière. Alors, tapissière, ça veut dire quoi ?
Tapissière, c'est la couturière d'ameublement. Je réalise tous les décors textiles de la maison. Double rideau, store, voilage, habillage de lit, etc.
Comment devient-on tapissière ? Quel était votre parcours jusqu'à exercer cette profession ?
J'ai habité 30 ans à Paris. J'étais assistante de direction dans un grand groupe. Et puis, vers la quarantaine, je dirais, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Et la couture me plaisait énormément. Donc, j'ai fait une formation à l'école Boulle. Et quand j'ai déménagé en province, il y a presque 15 ans maintenant, je me suis installée comme tapissière.
À Sainte-Vertu. Pourquoi Sainte-Vertu ?
Sainte-Vertu parce que d'abord je suis bourguignonne d'origine et puis j'ai toujours rêvé d'habiter à la campagne et j'avais des amis à Sainte-Vertu et je venais déjà régulièrement les week-ends et voilà donc évidemment s'installer en province c'est important d'avoir de connaître du monde et c'est ce qui m'a amenée ici à Sainte-Vertu.
Pourquoi vous êtes-vous dirigée vers ce métier de tapissière ?
Alors petite, ma tante était couturière et donc j'aimais beaucoup passer du temps avec elle quand on était en vacances près de chez elle. Et puis je faisais des habits pour mes poupées, pour les poupées de ma petite sœur. J'ai toujours aimé avoir une aiguille dans les mains.
Que viennent chercher les gens chez vous ?
Alors déjà, moi je vais chez les clients. Donc ça veut dire qu'il y a un temps d'échange, un temps de conseil qui est très important pour eux. Les moments d'échange, le travail que je fais pour eux de recherche, par exemple sur les tissus, etc., c'est important pour eux.
Quel type de conseils vous pouvez leur donner ? Ce sont des conseils de couleur, des conseils de matière ?
Oui, tout à fait. Les finitions, la forme, les matières, les harmonies par rapport à leur intérieur. Mais j'aime ça, donc voilà, je m'amuse beaucoup et j'aime conseiller mes clients.
C'est un métier qui vous fait découvrir de différents univers, j'imagine, parce que dès que vous rentrez chez quelqu'un, c'est un univers différent qui s'offre à vous.
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de travailler, par exemple, dans plusieurs châteaux du coin. Ça peut être aussi j'ai eu des maisons d'hôtes. Sinon, c'est des particuliers et chacun a son univers. Hein. On passe du rustique au très contemporain. Donc, j'ai la chance d'entrer dans de très belles maisons parfois. Et ça, c'est vraiment la récompense de la tapissière.
Ici.
Bien qu'elle en soit. cœur gros d'avoir encore mis une assiette en trop. Fâcheuse habitude depuis que son fiston pour faire des études a fait ses cartons. On l'avait prévenu que ce serait coton quand le dernier venu quitterait le cocon. Ça lui paraît dingue ce temps révolu. Le panier à fringues ne déborde plus. Bien sûr elle est fière, mais ça pique un peu pour moi, pour mes frères. Elle a fait de son mieux. Ma mère est de celles qui sont mine de rien toujours aussi belles. 60 ans plus loin, 60 ans plus loin. Ma mère est de celles toujours aussi belles. 60 ans plus loin. Elle caresse le chat, les yeux au plafond. Elle regrette déjà la musique à fond. Comme elle rembobine le film du passé. Ce soir elle cuisine des pâtes alphabées. La table est immense, le mat tout heureux. Le repas tu penses est bien silencieux. Peut-être qu'il faudra libérer l'espace. Des rallonges en bois qui prennent toute la place. Bien sûr elle est fière, mais ça pique un peu pour moi, pour mes frères. Elle a fait de son mieux. Ma mère est de celles qui sont mine de rien toujours aussi belles. Un divorce plus loin, un divorce plus loin. Ma mère est de celles toujours aussi belles. Un divorce plus loin. Passant devant les pioles désertiques, le bordel d'avant la rend nostalgique. Elle entend les rires, le parquet qui craque. Elle sait que vieillir est une belle arnaque. Le front dans sa paume, elle emmène pas large. De laisser ses mômes dans un monde de barge. Une daronne, il faut toujours qu'elle s'inquiète. Même quand ses marmots la dépassent d'une tête. Bien sûr elle est fière, mais ça pique un peu pour moi, pour mes frères. Elle a fait de son mieux. Ma mère est de celles qui sont mine de rien toujours aussi belles. Quatre enfants plus loin, quatre enfants plus loin. Ma mère est de celles toujours aussi belles. Quatre enfants plus loin.